Chapitre 2e. Le voyage fut une véritable course à la mort. Lupin, jugeant qu'Octave ne conduisait pas assez vite, avait pris le volant et c'était une allure désordonnée, vertigineuse, sur les routes, à travers les villages, dans les rues populeuses des villes. Ils marchèrent à 100 km à l'heure. Des gens frôlés hurlaient de rage, le bolide était loin, il avait disparu. « Patron, balbutia Octave, livide, nous allons y rester. » « Toi peut-être, l'auto peut-être, mais moi, j'arriverai, » disait Lupin. Il avait la sensation que ce n'était pas la voiture qui le transportait, mais lui qui transportait la voiture, et qu'il trouvait l'espace par ses propres forces, par sa propre volonté. Alors, quel miracle aurait pu faire qu'il n'arriva point, puisque ses forces étaient inépuisables, et que sa volonté n'avait pas de limite ?« J'arriverai parce qu'il faut que j'arrive, » répétait-il. Et il songeait à l'homme qui allait mourir s'il n'arrivait pas à temps pour le sauver, au mystérieux Louis de Malreich, si déconcertant avec son silence obstiné et son visage hermétique. Et dans le tumulte de la route, sous les arbres dont les branches faisaient un bruit de vagues furieuses, parmi le bourdonnement de ses idées, tout de même Lupin s'efforçait d'établir une hypothèse. Et l'hypothèse se précisait peu à peu, logique, invraisemblable, certaine, se disait-il, maintenant qu'il connaissait l'affreuse vérité sur Dolorès, et qu'il entrevoyait toutes les ressources et tous les desseins odieux de cet esprit détraqué. Et oui, c'est elle qui a préparé contre Malreich la plus épouvantable des machinations. Que voulait-elle? Épouser Pierre-le-Duc dont elle s'était fait aimer, et devenir la souveraine du petit royaume dont elle avait été bannie. Le but était accessible, à la portée de sa main. Un seul obstacle, moi. Moi qui, depuis des semaines et des semaines, inlassablement, lui barrais la route. Moi, qu'elle retrouvait après chaque crime. Moi, dont elle redoutait la clairvoyance. Moi, qui ne désarmerais pas avant d'avoir découvert le coupable et d'avoir retrouvé les lettres volées à l'empereur. Eh bien, puisqu'il me fallait un coupable, le coupable, ce serait Louis de Malreich, ou plutôt Léon Massier. Qu'est-ce que ce Léon Massier? L'a-t-elle connu avant son mariage? L'a-t-elle aimé? C'est probable, mais sans doute ne le saura-t-on jamais. Ce qui est certain, c'est qu'elle aurait été frappée par la ressemblance de taille et d'allure qu'elle-même pouvait obtenir avec Léon Massier, en s'habillant comme lui de vêtements noirs et en s'affublant d'une perruque blonde. C'est qu'elle aura observé la vie bizarre de cet homme solitaire, ses courses nocturnes, sa façon de marcher dans les rues, et de dépister ceux qui pourraient le suivre. Et c'est en conséquence de ces remarques, et en prévision d'une éventualité possible, qu'elle aura conseillé à M. Kesselbach de gratter sur les registres de l'état civil le nom de Dolorès et de le remplacer par le nom de Louis, afin que les initiales fussent justement celles de Léon Massier. Le moment vient d'agir, et voilà qu'elle ourdit son complot, et voilà qu'elle l'exécute. Léon Massier habite la rue de Lesmont. Elle ordonne à ses complices de s'établir dans la rue parallèle, et c'est elle-même qui m'indique l'adresse du maître d'hôtel Dominique et me met sur la piste des 7 bandits, sachant parfaitement que, une fois sur la piste, j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire au-delà des 7 bandits, jusqu'à leur chef, jusqu'à l'individu qui les surveille et les dirige, jusqu'à l'homme noir, jusqu'à Léon Massier, jusqu'à Louis de Malreich. Et de fait, j'arrive d'abord aux 7 bandits, et alors, que se passera-t-il? Ou bien je serai vaincu, ou bien nous nous détruirons tous les uns les autres, comme elle a dû l'espérer le soir de la rue des Vignes, et dans ces deux cas, Dolorès est débarrassé de moi. Mais il advient ceci, c'est moi qui capture les 7 bandits. Dolorès s'enfuit de la rue des Vignes. Je la retrouve dans la remise du brocanteur. Elle me dirige vers Léon Massier, c'est-à-dire vers Louis de Malreich. Je découvre auprès de lui les lettres de l'empereur, qu'elle-même y a placées, et je le livre à la justice, et je dénonce la communication secrète qu'elle-même a fait ouvrir entre les deux remises, et je donne toutes les preuves qu'elle-même a préparées, et je montre par des documents qu'elle-même a maquillés que Léon Massier a volé l'état civil de Léon Massier et qu'il s'appelle réellement Louis de Malreich. Et Louis de Malreich mourra. Et Dolorès de Malreich, triomphante, enfin, à l'abri de tout soupçon, puisque le coupable est découvert, affranchie de son passé d'infamie et de crime, son mari mort, son frère mort, sa sœur morte, ses deux servantes mortes, Steinweg mort, délivré par moi de ses complices, que je jette ou ficelé entre les mains de Weber, délivré d'elle-même enfin par moi, qui fait monter à l'échafaud l'innocent qu'elle substitue à elle-même, Dolorès victorieuse, riche à millions, aimée de Pierre le Duc, Dolorès sera reine. Ah ! S'écria Lupin hors de lui, cet homme ne mourra pas, je le jure sur ma tête, il ne mourra pas.
Attention, patron, dit Octave, effaré, nous approchons, c'est la banlieue, les faubourgs. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Mais nous allons culbuter, et puis les pavés glissent, on dérape. Tant pis. Attention, là-bas.
Quoi ?
Un tramway, au virage.
Qu'il s'arrête. Ralentissez, patron.
Jamais. Mais nous sommes fichus, on passera.
On passera pas.
Si. Un nom d'un chien.
Un fracas, des exclamations. La voiture avait accroché le tramway, puis, repoussée contre une palissade, avait démoli 10 mètres de planches et finalement s'était écrasée contre l'angle d'un talus.
« Chauffeur, vous êtes libre ?»
C'était Lupin, aplati sur l'herbe du talus, qui allait un taxi-auto. Il se releva, vit sa voiture brisée, des gens qui s'empressaient autour d'Octave et sauta dans l'auto de louage.
« Au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, 20 francs de pourboire. »
Et s'installant au fond du fiacre, il reprit « Ah non !» Il ne mourra pas, non, 1000 fois non, je n'aurai pas ça sur la conscience. C'est assez d'avoir été le jouet de cette femme, et d'être tombé dans le panneau comme un collégien.
Halte là, plus de gaffe. J'ai fait prendre ce malheureux, je l'ai fait condamner à mort, je l'ai mené au pied même de l'échafaud, mais il n'y montera pas, ça, non, s'il y montait, je n'aurais plus qu'à me ficher une balle dans la tête.
On s'approchait de la barrière, il se pencha.
20 francs de plus, chauffeur, si tu ne t'arrêtes pas. »
Et il cria devant l'octroi
« Service de la sûreté !»
On passa.
« Mais ne ralentis pas, crebleu !»
hurla Lupin.
« Plus vite, encore plus vite !»«
Tu as peur d'écharper les vieilles femmes ? Écrase-les donc, je paye les frais !» En quelques minutes, ils arrivaient au ministère de la place Beauvau. Lupin franchit la cour en hâte et monta les marches de l'escalier d'honneur. L'antichambre était pleine de monde. Il inscrivit sur une feuille de papier « Prince Cernine ». Et poussant un huissier dans un coin, il lui dit « C'est moi, Lupin. Tu me reconnais, n'est-ce pas ? Je t'ai procuré cette place. Une bonne retraite, hein ? Seulement, tu vas m'introduire tout de suite.
Bah,
passe mon nom.
Je ne te demande que ça.
Le président te remerciera, tu peux en être sûr.
Moi aussi. Mais marche donc, idiot. Valanglais m'attend. »
10 secondes après, Valanglais lui-même passait la tête au seuil de son bureau et prononçait « Faites entrer le prince !» Lupin se précipita, ferma vivement la porte et coupant la parole au président
« Non, pas de phrase, vous ne pouvez pas m'arrêter, ce serait vous perdre et compromettre l'empereur.
Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà, Malraich est innocent, j'ai découvert le vrai coupable, c'est Dolorès Kesselbach, elle est morte. Son cadavre est là-bas, j'ai des preuves irrécusables. Le doute n'est pas possible, c'est elle. » Il s'interrompit. Valanglais ne paraissait pas comprendre.
« Mais voyons, monsieur le président, il faut sauver Malraich. Pensez donc, une erreur judiciaire, la tête d'un innocent qui tombe.
Donnez des ordres, un supplément d'information.
Est-ce que je sais ? Mais vite, le temps presse. »
Valanglais le regarda attentivement, puis s'approcha d'une table, prit un journal et le lui tendit en soulignant du doigt un article. Lupin jeta les yeux sur le titre et lut « L'exécution du monstre. Ce matin, Louis de Malraich a subi le dernier supplice. Il n'acheva pas. Assommé, anéanti, il s'écroula dans un fauteuil avec un gémissement de désespoir. Combien de temps resta-t-il ainsi ? Quand il se retrouva dehors, il n'en aurait su rien dire. Il se souvenait d'un grand silence, puis il revoyait Valanglais incliné sur lui et l'aspergeant d'eau froide. Et il se rappelait surtout la voix sourde du président qui chuchotait. Écoutez, il ne faut rien dire de cela, n'est-ce pas ? Innocent, ça se peut, je ne dis pas le contraire. Mais à quoi bon des révélations ? Un scandale ? Une erreur judiciaire peut avoir de grosses conséquences. Est-ce bien la peine ? Une réhabilitation ? Pourquoi faire ? Il n'a même pas été condamné sous son nom. C'est le nom de Malraich qui est voué à l'exécration publique. Précisément le nom de la coupable. « Alors ?» Et poussant peu à peu Lupin vers la porte, il lui avait dit « Allez, tournez là-bas, faites disparaître le cadavre, et qu'il n'y ait pas de trace, hein ? Pas la moindre trace de toute cette histoire. Je compte sur vous, n'est-ce pas ?» Et Lupin retournait là-bas. Il y retournait comme un automate, parce qu'on lui avait ordonné d'agir ainsi,
et qu'il n'avait plus de volonté par lui-même. Des heures, il attendit à la gare. Machinalement, il mangea, prit son billet et s'installa dans un compartiment. Il dormit mal, la tête brûlante, avec des cauchemars et avec des intervalles d'éveil confus où il cherchait à comprendre pourquoi Massier ne s'était pas défendu. C'était un fou, sûrement un demi-fou. Il l'a connu autrefois. Et elle a empoisonné sa vie, elle l'a détraqué. Alors autant mourir, pourquoi se défendre? L'explication ne le satisfaisait qu'à moitié, et il se promettait bien un jour ou l'autre d'éclaircir cette énigme et de savoir le rôle exact que Massy avait tenu dans l'existence de Dolorès. Mais qu'importait pour l'instant? Un seul fait apparaissait nettement, la folie de Massy, et il se répétait avec obstination. C'était un fou. Ce Massier était certainement fou, d'ailleurs tous ces Massiers, une famille de fous. Il délirait, embrouillant les noms, le cerveau affaibli. Mais en descendant à la gare de Bruggen, il eut, au grand air frais du matin, un sursaut de conscience. Brusquement, les choses prenaient un autre aspect et il s'écria. Et tant pis après tout, il n'avait qu'à protester. Je ne suis responsable de rien, c'est lui qui s'est suicidé. Ce n'est qu'un comparse dans l'aventure. Il succombe, je le regrette, mais quoi? Le besoin d'agir l'enivrait de nouveau, et, bien que blessé, torturé par ce crime dont il se savait malgré tout l'auteur, il regardait cependant l'avenir. Ce sont les accidents de la guerre, n'y pensons pas, rien n'est perdu, au contraire. Dolorès était l'écueil, puisque Pierre-le-Duc l'aimait, Dolorès est morte, donc Pierre-le-Duc m'appartient, et il épousera Geneviève, comme je l'ai décidé, et il régnera, et je serai le maître, et l'Europe est à moi. » Il s'exaltait, rasséréné, plein d'une confiance subite, tout fiévreux, gesticulant sur la route, faisant des moulinets avec une épée imaginaire, l'épée du chef qui veut, qui ordonne et qui triomphe. « Lupin, tu seras roi, Arsène Lupin. » Au village de Bruggen, il s'informa et apprit que Pierre-le-Duc avait déjeuné la veille à l'auberge. Depuis, on ne l'avait pas vu. « Comment ? » dit Lupin. « Il n'a pas couché ? » ?»« Non. » »« Mais où est-il parti après son déjeuner ?»« Sur la route du château. » Lupin s'en alla, assez étonné. Il avait pourtant prescrit au jeune homme de fermer les portes et de ne plus revenir après le départ des domestiques. Tout de suite, il eut la preuve que Pierre lui avait désobéi. La grille était ouverte. Il entra, parcourut le château, appela, aucune réponse. Soudain, il pensa au chalet. Qui sait? Pierre-le-Duc, en peine de celle qu'il aimait et dirigé par une intuition, avait peut-être cherché de ce côté. Et le cadavre de Dolorès était là. Très inquiet, Lupin se mit à courir. À première vue, il ne semblait y avoir personne au chalet. « Pierre! Pierre! » cria-t-il. N'entendant pas de bruit, il pénétra dans le vestibule et dans la chambre qu'il avait occupée. Il s'arrêta, cloué sur le seuil. Au-dessus du cadavre de Dolorès, Pierre-le-Duc pendait, une corde au cou, mort.